Cette conférence au centre Ergonia du mercredi 18 février 1981 a pour titre « La création éternelle, Dieu qui conçoit et ses trois principes réalisateurs ». L'ésotérisme de la Genèse. De la Genèse, c'est-à-dire du premier livre de la Bible, l'écriture sacrée des Juifs, du moins quant à ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament, et l'écriture sacrée des chrétiens, qui comprend l'Ancien et le Nouveau Testament. L'ésotérisme de la Genèse, c'est-à-dire des Genèses, des commencements, des débuts de tout ce qui a été, de tout ce qui est, de tout ce qui sera. Les débuts, les commencements de tout et de tous. Ces Genèses qui sont précisément exposées dans le livre dit de la Genèse, tel fut, vous le savez, le propos du docteur Auguste-Édouard Chauvin, qui mourut âgé de plus de 80 ans en 1946, médecin nantais, dont il suffira de rappeler ici, en tirant ce détail de l'exposé biographique que nous avions élaboré lors de la première conférence, il suffira donc de rappeler ici qu'il fut élève de Saint-Yves d'Alvèdre. C'est le maître auquel il s'est sans cesse référé. De Saint-Yves d'Alvèdre, Chauvet, dont l'originalité n'est pourtant pas douteuse, a reçu une double orientation d'abord. D'une part, l'idée que le texte de la Genèse, ou plus précisément des 10 premiers chapitres du livre de la Genèse, était à décrypter, était à déchiffrer, qu'il comprenait un sens ésotérique, et d'autre part, un souci d'ordre social, d'ordre politique, tel que toutes les recherches métaphysiques paraissaient à Chauvet devoir déboucher sur des applications tout à fait concrète, réalisant ce qu'une brochure qu'il a lui-même publiée appelait, c'est le titre, « L'état social vrai ». De Saint-Yves d'Alvèdre, mais aussi des autres occultistes de la Belle Époque, à commencer par Papus, par Marcaven et quelques autres qu'il a bien connus, mais surtout sans doute de Saint-Yves d'Alvèdre, Chauvet reçut également l'idée qu'il existe une tradition universelle, que cette tradition se trouve dans toutes les religions et dans les livres sacrés de toutes les religions, qu'elle atteint son point de perfection dans le christianisme et qu'elle s'exprime avec perfection aussi, par conséquent, dans la Bible. Particulièrement dans la Genèse. Plus particulièrement encore, dans ces 10 premiers chapitres de la Genèse que Chauvet, je vous le rappelais la dernière fois, appelait un aide-mémoire pour initier. Que trouve-t-on dans ces 10 premiers chapitres qui recèlent un sens ésotérique? Eh bien, on y trouve précisément le résumé de la création. J'allais dire de la double création, Chauvet disait, de la création et de l'effectuation. C'est-à-dire d'une part de la création à proprement parler qui est en Dieu, Dieu concevant tout ce qui est et tout ce qui sera, et puis l'effectuation, c'est-à-dire la réalisation extérieurement à Dieu, de ce concept de Dieu même. Nous avons vu la dernière fois quels étaient les principes de déchiffrement que Chauvet avait proposés. Je rappellerai seulement qu'il s'agit, se référant bien sûr à l'écriture hébraïque, au texte original de la Bible et particulièrement de la Genèse, il s'agit de prendre en considération non pas le sens des mots tels que la prononciation des lettres, le composant, permet de le déduire, mais d'analyser chaque mot selon la valeur idéographique de chacune des lettres constitutives. Je dis bien idéographique et non pas hiéroglyphique, quoique les deux valeurs puissent parfois coïncider. Idéographique, c'est-à-dire quelles sont les idées qui se trouvent attachées à chacune de ces lettres. Ces valeurs idéographiques, ce sont celles que résument les quelques mots placés en regard de chacune des 22 lettres de l'alphabet hébraïque sur les tableaux que vous voyez ici à droite et derrière moi et que vous pouvez recopier sur les feuilles que vous avez entre les mains et où se trouve reproduit l'alphabet hébraïque. Ce déchiffrement à partir de la valeur idéographique des lettres doit suivre certaines règles que nous avons vues. Ici encore, je me contenterai de rappeler qu'entre le sens exotérique et le sens ésotérique, il ne peut y avoir contradiction, mais qu'il y a une différence, dirais-je radicale, en osant un jeu de mots. L'ésotérisme n'est pas l'allégorie, il ne s'agit pas de partir du sens exotérique et de l'élargir ou de l'approfondir pour obtenir le sens ésotérique. Non, le sens ésotérique s'obtient selon les méthodes que nous avons vues la dernière fois et dont je rappelais tout à l'heure le principe. Mais il convient de tenir compte de ce sens exotérique, d'abord parce qu'il a une valeur en lui-même et que le sens ésotérique n'abolit jamais la valeur du sens exotérique, et ensuite parce qu'il y a un rapport entre le sens ésotérique et le sens exotérique, même si, et c'est le cas, le sens ésotérique n'est pas une extrapolation, ce serait l'allégorisme, de ce sens exotérique. Il y a complémentarité. Et on peut illustrer cette complémentarité en rappelant que l'une des grandes données de la doctrine de Chauvel, l'une des grandes données de la doctrine traditionnelle, telle qu'elle se retrouve partout et toujours, c'est la distinction de trois mondes, le monde divin, le monde des lois et le monde des faits. Or, le sens exotérique a trait exclusivement au monde des faits, alors que le monde divin et le monde des lois sont exprimés, ont pour langage, le langage à sens ésotérique. Une mise en garde ou un avis, si vous le permettez, avant de commencer cette étude du premier verset du premier chapitre de la Genèse. Je voudrais rappeler, pour que vous n'en soyez surpris et pour qu'il n'y ait pas de malentendu, que par principe, nous répudions toute critique moderne, que nous considérons que le texte des 10 premiers chapitres de la Genèse, et des autres aussi d'ailleurs, mais seuls les 10 nous intéressent en l'occurrence, que le texte de ces 10 premiers chapitres est d'une seule coulée, qu'il n'y a pas des fragments juxtaposé, et qu'il n'y a pas un texte qui a été ensuite complété, qu'il n'y a pas des sources diverses, des sources documentaires qui auraient été plus ou moins bien exploitées et dont le résultat aurait été utilisé, incorporé afin d'obtenir le texte définitif de la Genèse. Non. Nous considérerons, selon la doctrine traditionnelle, qu'il s'agit d'un texte qui recèle l'enseignement de Moïse et d'un texte qui est, disais-je, d'une seule coulée. Deuxième point et dernier point de cet avertissement, nous suivrons la méthode de Chauvet et la méthode de Chauvet seulement. J'ai eu l'occasion de vous dire la dernière fois que Chauvet était sévère et, à mon sens, peut-être parfois injuste à l'endroit de la Kabbale. Il rejette tout usage des valeurs numériques des lettres, par exemple. Il rejette les procédés de guématrie, de notaricon, de témoura, que certains d'entre vous connaissent peut-être et qui sont essentiels dans la recherche du sens ésotérique selon la Kabbale. Chauvet ne s'en est pas soucié, a même estimé que ces méthodes étaient déroutantes. Je crois que l'on peut penser, et je serais tenté de penser, que ces méthodes ne sont pas aussi dépourvues de valeur que Chauvet le prétend, et que non seulement elles ont une certaine valeur, mais encore qu'elles ne sont peut-être pas non plus aussi opposées à la méthode de Chauvet qu'il le prétend également. Excusez-moi. Il y a quelque chose ? Je sais pas. Il y a quelqu'un qui... Je sais pas. Oui, oui. Maintenant, je me demandais s'il y avait quelqu'un. Ah bon ? Bon, je ne sais pas. Je pense donc que l'on pourrait non seulement comparer la méthode de Chauvet avec d'autres méthodes tendant à découvrir l'ésotérisme de la Genèse, mais encore que l'on pourrait associer ces méthodes. C'est une entreprise qui vaudrait certainement la peine, je le crois très profondément, mais ce n'est pas une entreprise que nous allons faire. Nous allons considérer la méthode de Chauvet en elle-même comme un tout, comme un système. Donc, nous allons aborder le premier verset du premier chapitre de la Genèse. Peut-être est-il utile de dire ici que les 10 chapitres auxquels Chauvet reconnaît un sens ésotérique sont divisés par lui en un certain nombre de livres qui ne coïncident pas, qui chevauchent parfois la division traditionnel serait peut-être un mot un peu trop laudateur, disons la division habituelle reçue en chapitres et en versets. J'ai dit qu'il y avait donc le monde divin. Il y a le monde des lois et il y a le monde des faits. Le premier livre de la Genèse est le livre des principes. Ce sont, n'est-ce pas, les appellations données par Chauvet. Ce livre des principes, qui concerne le monde divin, couvre le premier chapitre de la Genèse et va en fait jusqu'au cinquième verset du deuxième chapitre. Nous avons ensuite le monde des lois. Le monde des lois comprend un premier livre qui est le livre d'Adam. Ce livre d'Adam couvre le chapitre 2, depuis le sixième verset, là où se termine le livre des principes, jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au verset 25. Ce livre d'Adam concerne la réalisation des formes. Est-ce que vous pouvez lire, je n'écris pas très bien, c'est visible. Concernant également le monde des lois, le troisième livre, qui est le livre du serpent de la Genèse, que Chauvet appelle du nom hébreu du serpent, la roche. Nous avions ici la réalisation des formes, je le précise, des formes intellectuelles vivantes, pas des formes physiques. Le livre de Nahash, lui, est consacré à la chute d'Adam. Vous reconnaissez aisément le contenu exotérique qui est complémentaire du contenu ésotérique. Le troisième monde est donc le monde des faits, disons si vous voulez, des faits sensibles ou des phénomènes. Ces livres suivants seront consacrés à la cosmogonie, c'est-à-dire à la genèse du monde,
à l'androgonie, c'est-à-dire à la genèse de l'homme, à la sociologie, c'est-à-dire à la doctrine de la société. Je n'entrerai pas dans le détail, je dirai simplement que nous allons ainsi jusqu'à Noé, et que Chauvet termine son étude par la généalogie d'Abraham, et que la liste des patriarches lui paraît, une fois décryptée, donner précisément la clé de cet état social vrai. Je ne donne pas le détail ici des différents livres, je vous demande simplement, pour bien situer ce premier verset, de voir que au monde divin, consacré au monde divin, et le livre des principes, avec la couverture du texte biblique qui est indiqué entre parenthèses, et que le monde des lois comprend deux livres, le livre d'Adam, réalisation des formes intellectuelles vivantes, et le livre de Nahash, qui est la chute d'Adam. Oui, alors, j'indique ainsi également, je l'avais oublié, la référence, c'est chapitre 3, de 1 à 23, et qu'il y a ensuite, alors, le monde des faits sensibles, des phénomènes, c'est-à-dire la genèse du monde, la genèse de l'homme, la théorie de la société, qui font l'objet de plusieurs autres livres dont nous n'avons pas à parler aujourd'hui. La création, pour Chauvet, la création, même en son sens strict, c'est-à-dire l'acte réalisé par Dieu lui-même, cette création ne s'applique qu'aux puissances qui effectueront ensuite cette création. Autrement dit, la cosmogonie et l'androgonie ne sont pas l'objet d'une création immédiate, mais d'une création médiate. L'objet d'une création médiate par le Créateur, qui se sert à cette fin de puissance, puissance dont les plus élevés ont été par lui créés immédiatement, lesquelles puissances, et je cite ici Chauvet, lesquelles puissances, du fait de leur union perpétuelle avec l'ordre hiérarchique qui les précède, d'une part, et avec l'ordre hiérarchique qui les suit, d'autre part, constituent les maillons d'une chaîne ininterrompue, joignant la plus infinie et la plus basse des manifestations effectuées au Verbe créateur. Alors ici, bien sûr, nous anticipons, car finalement, c'est cela que va nous apprendre ce premier chapitre de la Genèse, et en particulier ce premier verset, lequel constitue, avec le deuxième verset, donc Genèse 1, 1 et 2, constitue ce qu'on peut appeler le prélude du livre des principes, le prélude des 10 chapitres, et le prélude de la Genèse, et le prélude de la Bible tout entière. Alors, nous allons regarder, si vous voulez, maintenant, ce premier verset. Est-ce que quelqu'un est capable de déplier ? Voilà. Bereshit bara Elohim et Hashamayim va at Aretz. La traduction courante, vous la connaissez tous, au commencement, Elohim, Dieu, voilà, créa le ciel, ou les cieux, puisque c'est un pluriel, et la terre. Première difficulté, j'en suis toujours au sens exotérique. Première difficulté, et il semble bien que cette phrase, ce premier verset, doive être pris non pas comme une proposition principale, mais en fait comme une proposition subordonnée. Temporelle. Excusez-moi de ces termes de grammaire, et qu'en fait, ce soit une subordonnée de la phrase suivante qui est constituée par le deuxième chapitre. C'est en effet ce que la grammaire semble indiquer, et des auteurs comme Rashi, comme Ibn Ezra, sont les premiers à dire que l'on devrait traduire au commencement que Dieu créa le ciel et la terre, ensuite s'ensuit le deuxième verset, ou encore lorsque Dieu créa le ciel et la terre, etc. C'est plus conforme à la grammaire, et également à cette idée que le mot que l'on traduit Rachid, que l'on traduit par commencement, n'a jamais en hébreu la valeur d'un commencement absolu. C'est important, je reste toujours dans l'exotérisme, car il semble, et cette idée nous allons la retrouver dans l'interprétation ésotérique, car il semble que cette interprétation autorise la conception qu'un démiurge intervient. C'est-à-dire que la création ne s'est pas effectuée immédiatement par Dieu, mais a été faite à partir d'une matière première qui était informe et vide, comme nous le verrons, si vous le voulez, la prochaine fois, dans le deuxième verset. C'est déjà, disons, une certaine indication. Et d'ailleurs, la traduction œcuménique de la Bible traduit « lorsque Dieu commença la création du ciel et de la terre était déserte et vide », etc. Un mot à propos de créer, et avant de revenir à ce premier mot, Bereshit, le mot donc « bara », je reste toujours dans l'exotérisme, est un mot qui désigne une action divine. Je parle de ce que vous trouverez dans les dictionnaires. Une action divine produisant des merveilles, produisant des nouveautés, produisant des choses inouïes. La notion de création ex nihilo est une notion qui est généralement mal comprise, qui a souvent donné lieu à des malentendus. Pour vous dire à quel point l'opposition entre création et émanation, sauf à donner de l'émanation une idée panthéiste, mais qu'est-ce que le panthéisme, peut être dangereuse. Je vous citerai une phrase de saint Thomas. Saint Thomas définissait la création comme l'émanation d'un être de la divinité. C'est vous dire qu'il n'opposait pas création et émanation. En fait, on sait bien que si saint Thomas n'a pas utilisé le mot émanation, mais a préféré création, c'était parce qu'il voulait ainsi repousser l'idée aristotélicienne d'une matière éternelle, enfin coéternelle là-dessus. Dorme, dans une traduction de la Bible que je me permets de recommander, c'est celle de la Pléiade, qui est certainement la plus exacte du point de vue philologique et dont les notes linguistiques, historiques, géographiques sont les plus remarquables. Dorme souligne que bara est le terme spécifiquement employé pour exprimer l'action créatrice de Dieu. Je reste toujours dans l'exégèse exotérique, mais vous verrez ensuite les rapports précisément sur ce point particulier entre l'ésotérisme et l'exotérisme, rapport que Chauvet affirmait d'une manière générale. Je voudrais tout de même rappeler comment a été interprété ce premier mot qui est composé d'une préposition, la préposition « b », et ensuite d'un mot qui est « rachit ». Cette proposition « b » qui a plusieurs sens, mais dont le sens le plus courant et peut-être le plus général est « dans ». On a remarqué que ce commencement était plutôt un principe, et on a remarqué également que ce principe était en fait la sagesse, divine. La sagesse a été première enfantée. Vous me permettrez de vous lire le texte. L'Éternel, c'est un texte des Proverbes, Proverbes 8, 22. L'Éternel m'a créé, c'est la sagesse qui parle, l'Éternel m'a créé, prémisse de ses voies avant ses œuvres depuis toujours. Dès l'éternité, je fus formé, dès le début, avant les origines de la terre. Quand il n'y avait pas d'abîme, je fus enfanté, quand il n'y avait pas de source chargée d'eau, avant que les montagnes ne fussent enfoncées, avant les collines, je fus enfanté, alors qu'il n'avait pas encore fait la terre et les campagnes et les premières poussières du monde. Quand il établissait les cieux, j'étais là, quand il traçait un cercle à la surface de l'abîme, quand il solidifiait les nuages en haut, quand il rendait puissantes les sources de l'abîme, quand il assignait sa limite à la mer, afin que les eaux ne transgressent son ordre, quand il affermissait les fondements de la terre, j'étais à ses côtés comme un enfant chéri, et je faisais ses délices chaque jour, jouant devant lui en tout temps, jouant sur le sol de sa terre, et trouvant mes délices avec les fils des hommes. Un autre texte de la sagesse parle de la sagesse elle-même comme de l'ouvrière de l'univers. Texte de la sagesse 8.6. si c'est l'intelligence qui opère, qui, plus que la sagesse, est l'ouvrière de ce qui est. Or, déjà, dans les commentaires de la tradition judaïque, on observe une tendance très nette à personnifier, chaque fois que leurs manifestations sont mentionnées dans l'Écriture, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu, ce que la tradition chrétienne interprétera à juste titre de son point de vue comme un pressentiment, comme un premier pas vers l'idée et la réalité du Fils et de l'Esprit, la parole de Dieu personnifiée en tant que Fils, l'Esprit de Dieu personnifié en tant qu'Esprit Saint. Eh bien, la sagesse aussi a été personnifiée. Et il se trouve que la tradition juive palestinienne a interprété le Reshit du premier mot de ce premier verset en le rapprochant de la sagesse. De la sagesse comme maître d'œuvre présent avec Dieu lors de la création. La sagesse divine, est en rapport avec la divinité, elle est en rapport particulier dans la tradition chrétienne avec la deuxième personne de la Trinité divine, c'est-à-dire avec le Fils, au point que dans certains textes, c'est le Fils lui-même qui est qualifié de sagesse. Or, je voudrais vous signaler que, reprenant en somme et christianisant la tradition juive, on trouve chez saint Paul une sorte de midrash chrétien de ce premier mot, Bereshit, dans la direction que j'indiquais à l'instant. Il s'agit de l'hymne de l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, versets 15 à 20. Il est l'image du Dieu invisible. C'est du Christ qu'il s'agit, et du mystère du Christ. Il est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute la création, parce qu'en lui ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes, soit les seigneuries, soit les principautés, soit les pouvoirs. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui, et il est avant tout, et toutes choses subsistent en lui. Et il est aussi la tête du corps, de l'Église, etc. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui, et il est avant tout, et toutes choses subsistent en lui. Ce passage est un véritable hymne. On y retrouve un schéma ternaire, et on y retrouve une grande importance du nombre 7. Particulièrement intéressant pour nous est le fait que lorsque saint Paul, reprenant et appliquant au Christ, qui est la sagesse, et qui est intimement associé au point qu'on peut dire qu'il est la sagesse, saint Paul, appliquant donc au Christ ce que la tradition palestinienne appliquait à la sagesse divine, compagne de Dieu, en ignorant la Trinité divine, eh bien, saint Paul, lorsqu'il dit « il est avant tout, toutes choses ont été créées par lui et pour lui, et toutes choses subsistent en lui ». Ces trois traductions, enfin en grec, en, dia et eis, sont les trois traductions possibles de cette préposition b. C'est-à-dire qu'effectivement, il s'agit bien de reconnaître dans Rachit le principe, le commencement, comme on dit de manière très exotérique, le principe, comme on dit d'une manière que j'appellerais anonyme, si j'ose dire, il s'agit bien de la sagesse, et il s'agit bien de la sagesse en tant que, oserais-je le dire aussi, parèdre du Christ, et c'est ce que saint Paul a considéré. Le mot « reshit » en hébreu classique signifie début, tête, commencement, premier fruit, et l'idée de saint Paul est que dans le Christ, qui est la sagesse, qui est la loi nouvelle, Dieu a créé le ciel et la terre, comme il le dit lui-même, créé par lui, pour lui, et toutes choses subsistent en lui, tous ces sens, ces trois sens, correspondant à cette première lettre du premier verset, cette première lettre de la Bible. C'est une interprétation, cette interprétation de Bereshit comme dans la sagesse ou dans le Christ, qui se trouve chez les pères de l'Église, qui se trouve chez Origène, qui se trouve chez Théophile d'Antioche, qui se trouve chez saint Augustin, où saint Augustin dit très clairement que on traduit fort bien Bereshit par in principio, mais que in principio, dans le principe, signifie dans le Christ. Un certain nombre d'autres pères de l'Église ont adopté cette interprétation, que d'ailleurs saint Jérôme, dans son commentaire à sa traduction dite Vulgate, a lui-même énuméré. Un mot encore, si vous le permettez, toujours dans l'exotérisme, mais qui converge vers l'ésotérisme, du mot Elohim. Ce sera pour vous dire que nous n'accepterons d'entrer dans aucune des discussions d'une critique dite libérale. Il ne s'agit pas de savoir s'il y a dans la Genèse, et en particulier au début de la Genèse, un auteur qui a d'abord utilisé le nom que l'on a tort de prononcer et que je désignerais comme le nom, c'est-à-dire le tétragramme, le nom sacré de Dieu par excellence, et puis un autre auteur qui aurait utilisé Elohim. Je n'entrerai pas dans la discussion qui consiste à dire que Elohim vient peut-être d'une vieille tradition polythéiste qui aurait laissé des traces, puisque c'est un pluriel, n'est-ce pas ? Elohim est un pluriel qui veut dire les dieux, si on traduisait de manière littérale. Effectivement, vous verrez que c'est ça, dans un certain sens. Je n'entrerai pas non plus, ou tout de même si, alors je répudierai tout de suite la discussion qui consiste à dire, pour se tirer d'affaire, qui consiste à dire que cet Elohim est en réalité un pluriel de majesté. C'est une plaisanterie parce qu'il n'y a pas de pluriel de majesté en hébreu. Il y en a dans d'autres langues, mais il n'y en a pas en hébreu. Donc, il ne s'agit pas d'entrer dans ces discussions, et si vous voulez bien, nous passerons maintenant à l'interprétation ésotérique de ce verset. Le sens exotérique, ce sont des effectuations virtuelles, temporelles et successives. Le sens ésotérique, ce sera la création de principes distingués non pas spatialement et temporellement, nous restons dans l'intellect divin, mais distingués spécifiquement, hiérarchiquement, dans la pensée éternelle et essentiellement une du Créateur. Nous allons être, dans ce premier chapitre, et particulièrement dans ce premier verset, exclusivement dans le monde divin et dans ses principes. C'est pourquoi le titre de cette conférence était « La création éternelle, Dieu qui conçoit et ses trois principes réalisateurs ». Chauvet a rendu à Saint-Yves d'Alvèdre hommage en même temps qu'il lui reconnaissait l'honneur d'avoir été le premier à saisir, je dirais plutôt entrevoir, le sens véritable de ce premier verset. Je vous lirai cette traduction de Saint-Yves d'Alvèdre qui a incontestablement été au départ de la recherche de Chauvet. Elle vous paraîtra difficilement intelligible, elle s'éclairera peut-être ensuite, mais je crois que c'est intéressant de montrer ce qui a donné le branle à cette recherche de Chauvet. La traduction de Saint-Yves d'Alvèdre est la suivante. Le Brachit. Vous voyez que Saint-Yves d'Alvèdre fait de Bereshit un sujet. Le Brachit, créateur des six jours. Le principe. Le verbe, il identifie donc ce brachit avec le principe ou le verbe, selon une tradition que j'évoquais tout à l'heure. Le brachit, créateur des six jours, le principe, le verbe, avait créé l'ordre de ses alimes. Cet univers des dieux, cet Olympe d'archanges, et l'at, c'est-à-dire Aleph Tav, et l'Aleph To, commencement et la fin, bien sûr, de l'univers des cieux. C'est l'âme et la raison de l'univers des astres. Eh bien, vous allez voir que cette idée de Brachit comme sujet, créateur des six jours, et cette tripartition des principes en Alim, Olympe d'archange, Dieu, en cieux et en astre ou astralité, vous allez voir que c'est ce que Chauvet va retrouver. J'ajoute que saint Yves d'Alvèdre avait donné également une traduction ésotérique, selon le même principe, du prologue de l'évangile selon saint Jean. Chauvet a écrit que cet évangile selon saint Jean lui paraissait bien comporter un sens ésotérique, de même que les textes que nous étudions, mais il n'a pas eu le loisir d'appliquer sa méthode et donc n'en a pas donné de traduction ésotérique comme il l'a fait pour la Genèse. Mais saint Yves d'Alvèdre l'a fait, et il est intéressant, je pense, de citer cette traduction, non sans avoir rappelé que la tradition à laquelle je faisais allusion tout à l'heure est concernant la référence de Rachid au principe à la sagesse et en tradition chrétienne à la sagesse du Christ se trouve bien sûr confirmée par le prologue de l'évangile selon Jean, qui dit au commencement était le Verbe, c'est-à-dire dans le principe était le Verbe. Vous verrez tout à l'heure que tout de même sur ce premier verset, nous avons une donnée qui vient de Chauvet lui-même. Mais je n'anticipe pas, je donne seulement la traduction que saint Yves d'Alvèdre proposait en complément, en articulation de sa traduction du début de la Genèse. Il traduisait ainsi « Le Brachit qui fonda l'alliance éternelle, le principe et le Verbe étant Dieu, c'est la raison divine ordonnant les puissances », montrant ainsi la convergence entre le début de l'évangile de Jean et le début de la Genèse. Essayons maintenant, si vous voulez, de voir quel est le sens ésotérique du premier mot, des deux premiers mots, si vous voulez, du substantif avec sa préposition, Bereshit, et puis du deuxième, Bara. Je cite tout de suite le deuxième parce que Chauvet insiste sur le fait que Fabre d'Olivet, d'ailleurs, avait déjà relevé que, fréquemment, le texte de la Genèse, lu ésotériquement, révèle que le second mot aide à comprendre le premier. Et en particulier, pourrait-on dire, lorsque l'on retrouve les mêmes éléments radicaux, ce qui est effectivement le cas ici, puisque nous avons Bereshit Bara. Donc, nous ne séparerons pas, provisoirement, ces deux expressions. Bereshit, je vous le disais, il faut dépasser cette interprétation toute exotérique d'au commencement, cette interprétation que je disais anonyme de « en principe », et il faut essayer de comprendre ce mot en tenant compte de la signification du mot suivant. Nous allons donc regarder le mot suivant et nous reviendrons ensuite à Bereshit. Le mot suivant, c'est Bara. Bara, nous savons ce qu'il signifie exotériquement, un acte spécifique de Dieu, une création immédiate de Dieu. Mais il convient maintenant, c'est la méthode propre de Chauvet, d'analyser les éléments littéraux de ce mot. Nous avons d'abord la lettre B, disons la lettre B, si vous voulez. Cette lettre, vous pouvez vous reporter au tableau des significations idéographiques, cette lettre signifie tout centre organique ou même tout centre organisé, récepteur et conservateur des productions spécifiées susceptibles de se manifester en ce monde. Or, ce monde, pour nous maintenant, j'entends au stade de notre étude, c'est le monde divin, je vous montrerai tout à l'heure pourquoi, par conséquent, cette lettre B signifiera l'ensemble des possibilités éternelles en Dieu, signifiera la Vierge divine, signifiera la divine sagesse. Vous voyez qu'il n'y a pas contradiction avec le sens exotérique, mais qu'au contraire, le sens exotérique nous acheminait déjà vers une compréhension plus profonde, quoi qu'il y ait une césure entre les deux. La lettre Resh, nous la connaissons. Vous vous souvenez peut-être que la dernière fois, nous avions analysé le mot Aour, signifiant lumière, et qu'à ce propos, nous avions pris en compte la signification fondamentale de la lettre Resh, qui est mouvement en soi. Et puis, Aleph, troisième lettre, n'est-ce pas, de ce mot. Aleph qui signifie l'absolu, qui signifie l'unité. L'ensemble de ces significations nous permet de comprendre bara comme le mouvement qui, éternellement en Dieu, va du centre à la circonférence, de ce centre qui, comme disait Pascal, est partout et dont la circonférence n'est nulle part. Bara désigne l'acte conceptif absolu en Dieu, cet acte conceptif par quoi Dieu se conçoit de toute éternité, par quoi Dieu conçoit éternellement ce qui n'est pas lui, et par quoi il donne par participation l'être et la vie à ce qu'il a conçu. Bara, nous le traduirons donc en gardant en mémoire cette signification profonde par avait créé. C'est un plus que parfait. Bien sûr, du point de vue grammatical, il n'y a aucune objection à utiliser un plus que parfait plutôt qu'un prétérit. C'est tout simplement un mode qu'on appelle l'accompli, génie des langues sémitiques. Mais il y a une raison particulière pour laquelle Chauvet utilise le plus que parfait. Et c'est la suivante. Que ces deux versets du premier chapitre de la Genèse ne sont pour lui que le résumé, que la conclusion de ce qui précédait et qui a été perdu. En effet, je vous faisais allusion la dernière fois à la théogonie. Il y a dans toute Genèse traditionnelle une androgonie, une cosmogonie, une genèse de l'homme, une cosmogonie, une genèse du monde, et aussi une théogonie. Je faisais allusion la dernière fois à la vie trinitaire en Dieu dont le Christ a apporté la révélation, mais il y a aussi en Dieu une création de principes, celle précisément que nous étudions dans ce premier verset, que l'on pourrait dire relevant d'une théogonie. Or, Chauvet considère que cette théogonie existait, mais était transmise de bouche à oreille, et que le texte n'a donc pas pu nous en parvenir, et que seuls nous en sont parvenus ces deux versets, qui n'en étaient pas encore, ces deux textes de conclusion que nous appelons les deux versets du premier chapitre de la Genèse. Et c'est pourquoi Chauvet traduira par « avait créé » en se référant à ce qui avait été expliqué aux initiés précédemment et qui ne nous est pas parvenu, autrement dit, la théogonie. Bara signifie donc exclusivement le concept éternel dans la pensée divine du Père de la réalisation temporelle de ce concept. C'est la pensée vivante et éternelle en Dieu. C'est une pensée qui n'existe pas encore extérieurement, mais qui existera extérieurement à Dieu, au moment fixé par Dieu même, lorsque qu'agiront sur son ordre, au temps voulu par lui, les puissances créées, effectives et effectuantes, lesquelles puissances sont particulièrement, sont divines, mais particulièrement les puissances du Verbe créateur, c'est-à-dire de l'ensemble des puissances angéliques, sous le contrôle, sous la direction de ce Verbe et avec la coopération de l'Esprit-Saint. Revenons maintenant, si vous le voulez, à Bereshit, que nous allons essayer d'éclairer avec la signification de ce mot bara, compte tenu de l'identité des racines. Bereshit peut se lire, en fait, de deux manières différentes. On peut lire, comme d'habitude, Bereshit. Et à ce moment-là, nous essaierons de dépasser le « au commencement » et le « en principe » en traduisant avec Chauvet, et compte tenu que le commencement et la fin se confondent en Dieu, nous traduirons « de toute éternité ». Ce n'est cependant qu'un sens accessoire. Le véritable sens, nous arriverons à le percevoir si nous lisons ce mot autrement. Si nous le lisons brachit, c'est-à-dire si nous retrouvons ce second mot au début du premier. Et à ce moment-là, nous allons percevoir quel est véritablement le sens ésotérique. Car, ainsi écrit, Bet Resh Aleph, cette forme de bara est ce qu'on appelle un infinitif absolu et ne peut se traduire en français que par un participe présent, que par un participe actif. C'est-à-dire créant, ou le créant, ou le créateur. Autrement dit, le verbe. Bra sera donc le verbe. Nous retrouvons ici, bien sûr, l'évangile de Saint Jean, et c'est la parenthèse à ouvrir, si vous le voulez, que je vous avais annoncé tout à l'heure, en disant que Chauvet nous avait proposé une traduction du début du prologue de l'évangile de Jean, en faisant une traduction en hébreu de « au commencement était le verbe »,« in principio erat verbum », il traduit « brachit », et il traduit ainsi « de toute éternité, le principe fut le verbe », qui vient confirmer la traduction qu'il donnait en divisant ce mot de la manière que j'ai dite. Autrement dit, ce premier verset, ces premières lettres de la Bible nomment le principe créateur, nomment le créant, le créateur, en disant qu'il s'agit du verbe. Reste dans ce même mot, shit. Shit est analysé par Chauvet comme le mot chesh, qui signifie six. Et vous vous rappelez peut-être que le shin correspond au triangle équilatéral qui est en relation avec un autre triangle équilatéral, l'un ayant la pointe en haut, l'autre la pointe en bas, et correspondant respectivement au monde effectué et au monde créateur, ou plus exactement au monde créateur et au monde effectué. Donc ce shit pour Chauvet correspond à shesh, c'est-à-dire... Et dans ce mot, on a remplacé le deuxième shin par un tav qui, vous vous le rappelez peut-être aussi, signifie le sceau de la manifestation dans l'unité éternelle. Le yod qui vient s'insérer entre le premier shin et le tav. Ce yod est, vous le savez, un principe d'activité, une puissance active. De sorte que l'on aboutit d'une part à un sens ésotérique qui signifie l'exade, l'exade en cours de création, et d'autre part, ce mot shit, et il est important de le signaler, a en hébreu classique une signification qui est celle de vêtement ou d'ornement. Par conséquent, si nous analysons le mot bereshit de cette manière, brachit, nous traduirons par le créateur de l'exade, le créateur de l'exade étant le verbe. Et également, nous devrons nous souvenir que le mot shit signifie vêtement, décor, apparence, et c'est bien en effet, un terme approprié pour désigner l'exade. L'exade, ce sont les six jours de la création, c'est tout ce qui a été créé pendant ces six jours, puisqu'effectivement, l'exade, c'est l'ensemble des manifestations, des apparences, ou des apparitions, si vous voulez, mais ce sont des apparitions qui ne sont que des apparences, car elles ne sont pas réelles, Dieu seul est réel, du concept divin. Si nous synthétisons les deux significations de Bereshit, nous allons obtenir une traduction de ce premier mot, qui est la traduction ésotérique. Je rappelle que si nous lisons Bereshit, nous aurons le sens de dans le principe, de toute éternité, dans l'intimité principielle. Et si nous lisons Brachit, nous aurons le sens du créant, c'est-à-dire du concevant, du verbe, du créateur de l'exade. En synthétisant donc ces deux sens, nous aboutirons à la traduction de toute éternité, le créateur, c'est-à-dire le verbe, de l'exade. Bara, je n'y reviens pas, avait créé, nous l'avons vu tout à l'heure. Maintenant, nous arrivons à Elohim. Chauvet disait que Elohim était, en l'espèce, le premier et le plus important des voiles posés sur l'ésotérisme de la Genèse. Et que la plus grande confusion que l'on put faire était de considérer que Elohim référait à Dieu. Elohim ne signifie pas Dieu. Elohim n'est pas le sujet de Bara. Voilà les deux principes à partir desquels nous allons comprendre ce que sont les Elohim, ou comme translittère Chauvet, comme il lit ensuite translittère, les Alim. Vous voyez donc que si nous considérons que le premier mot est le sujet, nous avons ensuite le verbe, et nous n'avons plus besoin, si je puis dire, de Elohim comme sujet, et nous considérons que Elohim est un complément d'objet. Et à ce moment-là, nous gardons à Elohim sa signification évidente, les dieux ou les puissances divines. C'est la première hiérarchie des puissances verbales, je veux dire des puissances du verbe, qui sont créées immédiatement et efficientes. C'est ce que Chauvet appelle l'angélie, pour désigner ainsi l'ensemble des anges, que l'on peut appeler les dieux avec un petit d, bien sûr. Les alim, pour reprendre la prononciation, l'interprétation de Chauvel, les Alim sont des créatures. Ce sont des créatures comme les cieux, Shamayim, et comme la terre, dont nous parlerons tout à l'heure, et vous vous doutez bien que les cieux et la terre sont des interprétations exotériques, mais que ces mots ont eux aussi une interprétation ésotérique. Pour l'instant, retenons surtout que les Alim ne sont pas dieux. Ce sont des dieux, mais ce sont des créatures. Et en ce sens-là, seulement on peut les appeler des dieux, et l'expression l'angélie est probablement plus satisfaisante. Saint Yves d'Alvèdre disait que Elohim n'est pas un nom de dieu, mais que ce sont les puissances pronominales de Dieu, ce qui est une belle expression qui traduit tout à fait exactement la pensée de Chauvet. D'ailleurs, si nous considérons, selon la méthode de Chauvet, la base radicale, vous vous rappelez que Chauvet distingue le signe, la base et la racine, si nous considérons la base radicale de ce mot « alim », et si nous en faisons l'analyse idéographique, nous allons avoir confirmation de cette interprétation. En effet, la base radicale, elle est très simple. C'est Aleph suivi de Lamed. Que signifie le Aleph ? Le Aleph, nous le savons bien, c'est l'absolu, c'est l'unité. que signifie le lamed, c'est l'expansion. La conjugaison de ces deux éléments du signe signifie le pouvoir, la force, la puissance. C'est le pouvoir de Dieu, c'est la force de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Ça n'est Dieu que par un abus de langage, que par un abus d'interprétation. Qu'est-ce en effet que ces Elohim, qui sont plus exactement dits des Alim, ce sont très précisément des puissances. C'est l'expression de la puissance du Dieu suprême. Ça n'est pas le Dieu suprême, c'est sa puissance sous forme de puissance au pluriel. Je vous disais que c'était la première hiérarchie des puissances verbales efficientes et créées. On pourrait dire que ce sont les ministres de Dieu, et on le dit. On peut dire que ce sont les anges de Dieu, que c'est l'angélie. Et le concept que le Verbe possède de toute éternité de ses propres puissances effectuantes universelles, eh bien, ce concept, aussitôt qu'il est conçu, c'est-à-dire, je le répète, de toute éternité, donne une réalité existentielle, crée existentiellement ce qui est conçu, et ainsi sont créées, viennent à l'existence, les puissances, les forces divines, les anges, les ministres, que Chauvet appelle l'angélie. On ne peut pas dire que ces puissances soient à proprement parler extérieures au Verbe. Il y a en effet une participation tout à fait intime, puisqu'il s'agit du rapport entre le concept et le concevant, entre l'idée et celui qui conçoit cette idée. Et c'est pourquoi souvent dans l'Écriture, il est question de l'ange de Dieu, et l'on peut comprendre qu'il s'agit de Dieu. Mais ce serait par abus que l'on confondrait cette puissance de Dieu avec Dieu même. Il y a un rapport entre le Verbe et l'angélie qui est extrêmement difficile à sonder pour nos esprits, et que saint Paul a suggéré d'une manière très précise et très efficace dans un passage de cet hymne de l'Épître aux Colossiens que je lisais tout à l'heure. Ce sont les Colossiens 1,16. En lui, c'est toujours du Christ qu'il s'agit et de son mystère, en lui ont été créés, alors là nous retrouvons bien sûr le Bereshit, en lui ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes, soit les seigneuries, soit les principautés, soit les pouvoirs. Vous vous rappelez ce texte de tout à l'heure. Vous voyez qu'en ce moment, il est tout à fait pertinent, puisque les trônes, les invisibles, mais particulièrement les trônes, les seigneuries, les principautés, les pouvoirs, ce sont des classes de cette angélie que le mot « alim » désigne. Il y a en effet une variété d'alim, et l'on peut parler de la personnalité distincte de chacun de ces alim. Ces alim, ces puissances, avec la triunité divine, constituent le monde divin. Ce qu'on appelle parfois la terre des vivants, ou qu'on appelle aussi le ciel des cieux, ce que l'on peut également appeler le plérôme, tout en prenant garde qu'il peut y avoir une interprétation orthodoxe et une interprétation hétérodoxe, les deux étant gnostiques d'ailleurs, car il y a une gnose orthodoxe comme il y a une gnose hétérodoxe, et que l'hétérodoxie apparaît à partir du moment où l'on considère que les alims sont en quelque sorte des sous-multiples du Verbe, car si le mot panthéisme a quelquefois un sens, là je crois qu'il en aurait un, et ce serait effectivement une confusion entre les puissances de la triunité divine et cette triunité ou cette trinité divine elle-même. Les alims sont donc toujours présents dans l'intimité du Verbe, mais également, étant donné la fonction qui leur est assignée, ils sont séparés de quelque manière afin d'agir dans l'ordre temporel et spatial. Ils participent de la manière la plus intime du monde des principes et ils participent du monde des formes. Telle est leur fonction. Peut-être ici un mot pour revenir sur cette idée de création ex nihilo sur laquelle ce que nous venons de dire jette quelques lumières. Et car si nous sommes bien en présence, et l'interprétation, la lecture que nous venons de faire de ces premiers mots nous incite à le croire, si nous sommes bien en présence d'une création médiate par l'intermédiaire de puissances qui, elles, ont été créées immédiatement, et qui, du fait de leur union perpétuelle avec l'ordre hiérarchique qui les précède et celui qui les suit, constituent l'un des maillons d'une chaîne ininterrompue joignant la plus infime et la plus basse des manifestations effectuées au verbe créateur, c'est le texte de Chauvet que je lisais tout à l'heure, eh bien à ce moment-là, on peut bien dire que la création est ex nihilo en ce sens qu'elle ne s'effectue pas à partir de quoi que ce soit de physique ou de matériel, mais qu'elle part d'un concept qui est généré et qui a bien une réalité propre. Il y a une difficulté que l'on pourrait opposer à la lecture que nous venons de faire, et dont l'un des éléments cardinaux consiste à prendre Elohim comme complément du verbe bara. C'est que nous avons deux autres compléments, Hashamayim et Haaretz, et que ces deux autres compléments sont précédés de la particule, de la préposition et. Voici comment on peut résoudre cette difficulté. Et est bien le signe de l'accusatif. Mais il y a des accusatifs qui ne sont pas signifiés par cette particule. Il y a des compléments qui ne sont pas précédés par et. Et il paraît bien qu'en réalité, et précède seulement des mots sur la spécification essentielle desquels on veut attirer l'attention, c'est-à-dire les noms propres, c'est-à-dire des substantifs avec article. Or, ici, Alim, vous le remarquerez, bien sûr, n'est pas un nom propre, mais n'est pas non plus pourvu d'article, alors que Shamayim a un article, l'article A, et que Haaretz a également un article A, à Shamayim va à Haaretz. Va à Haaretz, puisque ici nous avons effectivement la particule qui précède ce deuxième et ce troisième complément. On pourrait donc dire que et est le signe de la spécification essentielle si l'on tient compte de l'usage grammatical qui en est fait. Et l'analyse littérale, selon la méthode de Chauvet, nous confirme cette interprétation. Quelles sont en effet les deux lettres constitutives, quelle est la base radicale de et? Eh bien, c'est Aleph et Tav. C'est le principe et la fin, c'est-à-dire une manière de désigner, en référant au principe et à la fin, l'essence même de la chose, sa spécification. Et je pense qu'on trouve là une très bonne explication par cette analyse littérale de la raison pour laquelle et précède le complément direct seulement quand on veut spécifier la nature essentielle de l'objet qui est complémentaire. Et la nature essentielle des alim, elle, s'oppose en quelque sorte à recevoir et, car elle n'est pas, si l'on peut dire, spécifiée comme le sont les cieux, j'utilise la traduction exotérique, comme le sont les cieux et comme l'est la terre. En effet, il y a avec le verbe, pour les alim, un rapport tout à fait particulier dont je parlais tout à l'heure. En revanche, les deux autres hiérarchies, car vous devinez déjà que les cieux et la terre sont les symboles qui ont leur réalité dans le monde des faits sensibles, sont les symboles de deux autres hiérarchies de principes, puisque nous sommes dans le livre des principes et dans le monde divin, eh bien l'essence de ces deux autres hiérarchies est bien créée et, sous la dépendance de la première, possède une indépendance, un isolement, séparation, que ne possède pas la première hiérarchie. Ces deux hiérarchies les cieux et la terre, Shamayim, Aretz, sont en quelque sorte intermédiaires entre Alim et le monde de l'effectuation, le monde des faits. C'est pourquoi on peut, d'une part, retenir cette signification de spécification essentielle et qui appartient à la particule et, et d'autre part, on peut justifier que Elohim, que Shoveli Alim, soit un complément, bien qu'il ne soit pas, contrairement aux deux compléments suivants, précédé de la particule et. Eh bien, cette particule et, nous venons de dire quelle est sa signification, et que spécifie-t-elle en l'occurrence? Elle spécifie Shamayim. Shamayim, que l'on traduit exotériquement les cieux. Je disais que vous deviniez bien qu'il s'agissait d'un symbole, et il n'y a rien d'étonnant à ce que le sens exotérique est substitué à un symbole sensible à la réalité invisible qu'il représente. C'est une démarche que nous retrouverons constamment dans les 10 premiers chapitres de la Genèse. Si nous analysons ce mot « Shamayim », nous constaterons que sa base radicale est la suivante. Qui est Shin Mem. Ces deux lettres se lisent en hébreu Shem. Shem qui signifie nom, célébrité, réputation, monument. Et jouant sur les mots, c'était bien son droit, Chauvet a dit que ces deux lettres pouvaient constituer le schéma. C'est un jeu de mots, je crois, instructif. De l'être. Cette base radicale, donc, a le sens de nom de réputation si nous la lisons, mais si nous l'analysons lettre par lettre, selon la méthode de Chauvet, nous aurons confirmation. En effet, qu'est-ce que le Shin? Le Shin, reportez-vous au tableau, c'est l'effectuation. Qu'est-ce que le même? C'est la production extériorisée, indéfinie. Nous avons donc la confirmation de cette idée que la lecture exotérique donne, puisque Shem, c'est le nom, c'est la réputation, c'est le monument. Et puis, nous avons Im. Qu'est-ce que Im? Im, c'est bien sûr le signe du pluriel, et nous indique, si nous l'analysons, les facultés masculines d'extériorisation. Et bien sûr, il y a une objection que l'on pourrait faire, un peu du même ordre que celle qui aurait consisté à dire pourquoi n'y a-t-il pas être devant Elohim, c'est de faire observer que le pluriel de Shem n'est pas Shemim ou Shemayim, ça ne veut rien dire, mais que le pluriel est Shemot, et Im est un pluriel, mais un pluriel masculin, comme je le disais. Par conséquent, ce serait un véritable barbarisme. La réponse est, je crois, facile. Il ne s'agit pas de dire que même dans ce cas particulier, Shamayim ou Shemim, enfin, serait le pluriel de Shem, il s'agit de dire que ce mot a été forgé de telle manière qu'il comprit d'une part la base radicale Shin Mem et d'autre part la désinence Yod Mem afin de signifier le nom, la célébrité, sens que confirme l'analyse littérale puisque Shin c'est l'effectuation et Mem c'est la production extériorisée indéfinie et que Im signifie précisément ce côté masculin, ce côté de faculté d'extériorisation. Il ne s'agit pas de dire qu'on a une forme grammaticale aberrante, on a un mot qui a été forgé d'une certaine manière. que sont donc les Shamayim, symbolisés par les cieux. Les cieux, c'est la traduction exotérique. Ce sont les lois célestes. Ce sont les lois célestes providentielles, ordonnatrices, informatrices et régulatrices. Ce sont les lois destinées à régir toutes les formes et toutes les formations qui doivent exister dans l'univers futur, car l'univers n'est pas encore effectué, et destinées aussi à les maintenir dans l'ordre établi pour la manifestation du nom, c'est-à-dire de Shem. Tout naturellement, le symbole de ces lois a été choisi en haut, et l'on a pris des cieux. Tout naturellement, mais cet acte naturel ne doit pas nous faire oublier qu'il ne s'agit pas seulement des formes et des formations physiques et physiologiques, mais aussi des formes sociales, morales, intellectuelles, de toutes les formes, sauf celles qui, par nature, appartiennent à l'univers créé. Les Shamayim, les cieux, les lois providentielles, sont intermédiaires entre les principes et l'effectuation. Et puis nous avons Aretz, Et Aretz, qui est le troisième complément. Aretz se traduit exotériquement par terre ou globe terrestre. Ésotériquement, c'est la troisième hiérarchie des puissances, de ces puissances dont les Alim sont les premières et les Shamayim les secondes, et que la Providence éternelle a destiné à réaliser l'universelle conception créatrice du Verbe divin. Si nous analysons ce mot, nous pouvons procéder de deux manières. Nous pouvons d'abord considérer la base radicale Aleph Resh, qui désignera l'énergie absolue en soi. L'analyse littérale vous aidera facilement à voir comment on obtient ce résultat. Ar, donc, qui signifiera l'énergie absolue en soi. À quoi se joint une lettre, vous vous rappelez, c'est l'une des règles de la méthode de Chauvet, ces lettres ajoutées qui viennent modifier ou moduler le sens. Eh bien, cette dernière lettre viendra indiquer un but qui n'est jamais fixe, et par conséquent, nous aurons une idée de mouvement incessant. Cette interprétation sera explicitée, en même temps confirmée, par l'analyse littérale de chacune des lettres, c'est-à-dire de la racine à proprement parler, puisque nous aurons Aleph, ici, qui signifie la plénitude, la puissance, Resh, qui signifie, vous vous le rappelez, le mouvement en soi, et puis la dernière lettre qui désigne le but déterminé et fixé. Ainsi, Aretz signifiera ésotériquement, après cette analyse littérale, le principe dirigeant et maintenant dans leurs orbes fixés et déterminés tous les corps de l'astralité gravitante, ajoute Chauvet. C'est-à-dire que Aretz sera tantôt le principe de l'astralité, tantôt l'astralité elle-même. Ce mot Aretz est particulièrement complexe quant à son sens et présente des difficultés que nous aurons à surmonter lors de l'explication du deuxième verset et éventuellement des versets suivants. Si nous essayons maintenant de rassembler les données obtenues au terme de cette analyse ésotérique que l'interprétation exotérique ne contredit pas, mais aide sans aucun doute à saisir, nous aurons la traduction littérale suivante. Je lis le texte de Chauvet. De toute éternité, le créateur de l'exade, c'est-à-dire le verbe, l'exade, c'est-à-dire les six jours de la création. De toute éternité, le créateur de l'exade avait créé, c'est-à-dire conçu dans sa pensée éternelle. Elohim ou Alim, c'est-à-dire les dieux, les puissances actives primordiales, l'angélie. Avait créé aussi l'essentialité des cieux, c'est-à-dire des lois providentielles. Et l'essentialité, c'est la particule « et » qui nous permet d'introduire cette notion, l'essentialité de l'astralité, aussi bien de l'astralité causale que l'astralité effectuée. Ainsi, le prélude que constitue Genèse 1, versets 1 et 2, nous découvre les principes primordiaux qui sont au nombre de trois, qui ont été conçus de toute éternité dans la pensée créatrice pour la réalisation dans le temps et dans l'espace de cette pensée sous le contrôle éternel et direct de la Trinité, de la triunité, si vous voulez, divine. Dans la suite, ces principes développeront leur puissance et nous verrons qu'elles sont infinies. Ces principes, je le rappelle, ces principes que Dieu a créés par son Verbe, c'est d'abord l'angélie, Elohim ou Alim, les puissances effectuantes du Verbe, en acte dans les autres mondes, sous le contrôle du principe suprême absolu qui est leur créateur. Et avec leur créateur, l'angélie, les Elohim, constituent le monde divin. À l'angélie correspond le monde des principes et des essences, qui sera le premier monde créé. Deuxième principe, créé par Dieu, par son Verbe, et dans son Verbe, les lois célestes, Shamaïm. Les lois célestes qui sont les puissances informantes, sous le contrôle des Elohim ou des Alim, et qui auront pour régisseur Adam. À ce deuxième principe, correspondra le deuxième monde créé, le monde des lois et des formes. Troisième et dernier principe, le principe énergétique universel et réalisateur, c'est-à-dire Aretz, la terre en langage exotérique, qui aura pour régisseur le serpent, et qui correspond au troisième monde créé, c'est-à-dire le monde des formations sensibles et matériels. Ce monde créé des essences, correspondant aux Elohim, ce monde des principes énergétiques et vitaux, correspondant aux Shamaïm, ce monde des principes formels, correspondant à Aretz, constitueront l'univers contenant, l'univers contenu que je vous propose d'étudier dans le deuxième verset du premier chapitre de la Genèse, puisque tel est l'objet de ce verset. Pour terminer, je voudrais vous lire la version moins littérale, mais néanmoins exacte, que Chauvet a proposée du premier verset. Je vous ai lu tout à l'heure, pour résumer l'ensemble de nos analyses, la traduction littérale qu'il en avait donnée. Voici maintenant la version qu'il appelle lui-même en français correct. De toute éternité, le créateur de l'Exade, c'est-à-dire des manifestations universelles, avait conçu dans sa pensée créatrice l'angélie, c'est-à-dire l'ensemble de ses puissances actives primordiales, autrement dit les Elohim. Avait conçu l'essentialité des cieux lois, autrement dit les Shamaïm, destinés à réaliser et à régir les formes. Avait conçu l'essentialité de l'Aretz, c'est-à-dire l'astralité universelle, sous son double aspect de principe moteur, de l'astralité gravitante, sous son double aspect de principe moteur de l'astralité gravitante et de cette astralité universelle elle-même. Voilà la traduction ésotérique de ce premier verset. Je voudrais seulement, en terminant, souligner que les sept mots de Genèse 1.1 nous ont ainsi dévoilé la nature et le nom même du principe absolu créateur. nous ont signifié aussi le double aspect de la création. Nous ont signifié enfin la triplicité des principes primordiaux à qui est confiée sous le contrôle et la garantie du verbe principe la réalisation intelligible et sensible de l'inconcevable, universel et éternel concept créatif. Et puis, cette lecture ésotérique des sept mots nous a aussi, et c'est là-dessus que je terminerai, montré ce que pouvait être la science de la langue sacrée ésotérique, puisque c'est en recourant à cet usage que nous avons pu dévoiler ces réalités dans les sept mots de la Genèse. Je pense que nous avons peu de temps, malheureusement, si quelqu'un a une remarque à présenter.
C'est pareil que
acte.
Être.
Oui.
Fait. L'avant-dernier mot.
Alors, ici.
Oui.
Alors, c'est la conjonction et. Et.
Ah,
donc... Vav. Vav qui signifie et, n'est-ce pas? C'est-à-dire que. Je vais pas reprendre si vous voulez. Bon, Breshut Para, Elohim, et. Alors, ici, nous avons et, qui donc est la, dans certains cas le signe de l'accusatif, comme vous disiez, a, qui est l'article, l'article défini, il n'y a pas d'article indéfini, va, qui est la conjonction et, et, marquant l'accusatif, et a, l'article également, et aretz, qui est le dernier, enfin, le substantif que nous avons étudié tout à l'heure.
Est-ce qu'avant de nous séparer, quelqu'un souhaite, sinon poser une question, au moins faire une remarque ou exprimer une opinion? Je le souhaite.
Tenait-il compte de la formulation de l'intensité de la formulation hébraïque, je veux dire de la sonorité du son en lui-même, de sa puissance,
non.
De son
non.
Du verbe propre.
Non, absolument pas.
Absolument. Ils sont en tête de,
oui.
De traduire
oui.
Littéralement.
Oui. Oui. Pas plus.
Donc, ils n'utilisent absolument aucun procédé kabbalistique connu.
Non seulement il ne les utilisait pas, mais encore il a très sévèrement critiqué la Kabbale, que d'ailleurs il ne connaissait probablement pas bien, parce que lui qui avait un grand sens et une grande culture philosophique, mais qui était surtout thomiste d'ailleurs, a critiqué la Kabbale du point de vue philosophique et même du point de vue théologique d'une manière qui est parfois très sommaire. Il y avait chez lui... incontestablement un certain malaise à l'égard de ce qui était tradition ésotérique juive. On voit très bien pourquoi d'ailleurs, parce qu'il considérait que la tradition chrétienne en était l'achèvement, l'épanouissement, et qu'il craignait que la Kabbale ne s'orientât vers le sens qu'il disait panthéiste. Donc il n'y a absolument, il n'en tient pas compte, de même que, comme je le disais, il ne tenait pas compte de l'hiéroglyphe, si vous voulez, la valeur hiéroglyphique l'intéressait uniquement dans la mesure où elle confirmait, ou était à l'origine, de la valeur idéographique.
Mais l'origine de sa ferveur pour la tradition hébraïque, alors d'où vient-elle finalement? De son maître
Saint-Isabelle, oui, je crois. Ça, je pense vraiment. Ça, je pense. Vous savez, Chauvet, on en parlait la première fois, Chauvet a été inquiet spirituellement et intellectuellement dans son adolescence, sa jeunesse, comme nous tous, et il a rencontré l'occultisme de la fin du XIXe siècle. Il a été martiniste, il a eu un groupe martiniste, il a fait les choses très sérieusement, et puis il s'est assez vite rendu compte que ça ne le satisfaisait pas. Il est resté d'ailleurs très ami avec des personnages comme Papus, mais il n'a plus d'activité dans ce domaine et il ne le prenait plus très au sérieux. Le seul pour lequel il avait gardé, je ne dis pas de l'amitié, car il avait gardé de l'amitié pour les autocultistes, mais de l'admiration et envers qui il reconnaissait vraiment une très grosse dette, c'était Saint-Yves d'Alvèdre. Et il n'y a pas de doute que c'est Saint-Yves d'Alvèdre qui lui a donné l'idée qu'il y avait un sens ésotérique caché à l'intérieur du texte hébreu de la Genèse. Et c'est Saint-Yves d'Alvèdre aussi qui lui a donné l'idée, d'ailleurs que Fabre de Liver avait énoncé comme précurseur, que ce sens pouvait être découvert en analysant les lettres constitutives des mots. Donc, si vous voulez, dans sa bibliothèque, il y avait... Enfin, j'ai retrouvé une liste, j'ai pas retrouvé plus les livres. Il y avait des ouvrages qui intéressaient la Kabbale. Il y avait la traduction du Zohar de Jean de Pauli. Pardon ?
Je suppose qu'il était...
Oui, bien sûr. Oui, mais, oh non, mais il n'était pas tellement versé. Il avait regardé un peu, mais c'était pas du tout son orientation. Hein. C'était pas ses méthodes et c'était pas son orientation. Puis il y avait la traduction de quelques ouvrages allemands, je ne sais plus exactement maintenant, mais enfin, quelques ouvrages de documentation de fondamentaux, si vous voulez, mais pas plus. Enfin, c'était, donc, vraiment, ce que je disais tout à l'heure, je crois que ce serait extrêmement intéressant, et si on a l'occasion, une fois, on pourrait, après avoir étudié un peu Chauvet, voir comment, en quelque sorte, articuler Chauvet et la Kabbale, parce que je ne suis pas du tout convaincu qu'il y ait l'opposition qu'il voulait, si vous voulez, et c'est pas le diminuer. Mais je crois que ce serait très intéressant. Mais il ne l'a pas fait. Hein. Il ne l'a pas fait.
Parce qu'il n'y a aucune... Il semble y avoir dans cette méthode des Chauvet, aucune... On ne sent pas le Zohar, on ne sent rien.
Absolument
pas. On ne sent pas ni le Zohar, ni le Zohar, rien.
Absolument pas. Absolument pas. Absolument pas.
Il y a un désert total de ce côté-là.
Absolument pas. Non, si tu retrouves, s'il y a un arrière-plan, c'est Saint-Yves d'Alvèdre.
C'est Saint-Yves.
Ça, sans aucun doute. Et un peu Fabre d'Olivet dans la mesure où il y a du Fabre d'Olivet un peu en arrière-plan de Saint-Yves. Mais c'est Saint-Yves. Pour le premier chapitre, c'est même très, très frappant parce que la traduction de Saint-Yves est assez biscornue. Enfin, il faut bien dire, en plus, il a voulu faire ça en vers. L'Olympe des anges, des archanges, enfin, je ne sais plus l'Olympe des archanges, alors avant, ça me son style aussi. Mais l'essentiel y est, enfin l'idée de faire de Brachit le sujet et l'idée de considérer qu'il y a trois principes désignés par Elohim, Shammai et Aretz. Je dois dire d'ailleurs que il reconnaît lui-même, enfin il reconnaît, il annonce lui-même, c'est beaucoup plus frappant pour le premier verset que pour les autres. Hein. Pour les autres, Saint-Yves verse souvent dans ce que Chauveur est appelé de l'allégorisme.
C'est synarchique.
Mais pour le premier, oui.
Totalement synarchique, dirait un de nos amis.
Mais c'est d'ailleurs. C'est ça. C'est d'ailleurs tout à fait vrai. Et du reste, ni Saint-Yves d'Alvèdre, bien sûr, ni Chauvet n'y était indifférent. Enfin, ce que je disais tout à l'heure, que pour Chauvet, Saint-Yves d'Alvèdre a été l'initiateur du déchiffrement de la Bible, mais ça a été aussi celui qui lui a montré le terme, et que le terme devait être une application politique. Donc, c'est certainement... ça Chauvet, mais j'ai retrouvé des correspondances ou même dans les dernières années, enfin Chauvet a toujours prêté beaucoup d'intérêt, il a participé à un moment avec Béliard à la fondation d'une petite société de 4 membres d'ailleurs qui s'appelait, si je ne me trompe, les gardiens du Graal ou les chevaliers du Graal, et qui avait aussi des visées politiques dans le sens le plus large et le moins partisan du terme, mais ça montre que ça a toujours intéressé Chauvet. Cet homme qui a vécu en solitaire,
enfin vraiment, enfin, sa vie était partagée entre l'exercice de la médecine et son travail sur l'ésotérisme de la Genèse, eh bien, cet homme avait toujours un très grand souci de l'état social vrai. Bon, est-ce que quelqu'un souhaite exprimer une opinion ? Bon, alors je vous invite, si vous le voulez, le 18 mars. Non, c'est pas le 18 mars, je ne sais plus quel est le. Le 10 mars. J'aurais tout de même aimé savoir, est-ce que pour certains, il y a des objections ? Est-ce que certains sont sceptiques ? Quelle est l'impression que donne ? Non ? Non ? Non, non, non.
Parfois, je suis un peu dérouté.
Ah,
Je suis un peu dérouté parce que j'ai travaillé beaucoup plus sur
le. Ah non, non, sur bon. Ça, je...
Alors,
je comprends très bien que tu sois tout à fait dérouté. Mais est-ce que ça.
Comment ça, ça me semble hérétique, j'allais dire, pas du tout.
Non, je ne parlais même pas. Est-ce que ça. Bah, moi, il y a une chose qui me paraît très fréquente, c'est la cohérence.
C'est très cohérent.
Bon,
c'est
et encore, nous venons de le voir sur un chapitre, mais c'est vrai pour les 10 premiers chapitres. Et il y a une chose qui est vraie. Chauvet l'a dit après l'avoir vérifié. Bon. Moi, une toute petite échelle, j'ai regardé aussi. Ça ne marche pas avec les autres chapitres.
Non,
ça ne marche vraiment, si tu n'es qu'avec les 10 premiers. Ça, c'est tout à fait sûr. Et avec un système qui est tout de même rigoureux. Enfin,
c'est vrai. J'aimerais savoir, je ne sais pas si tu as ça, est-ce qu'on pense, à moi, je pense qu'il m'a approché le rassemblement, un homme comme Nathan Marmont en 2006.
Pas du tout.
Je crois que je pose la question
sur
un
peu,
parce que lui qui parle de la Torah du nom, de la Torah de Dieu, etc.,
ce serait extrêmement intéressant, je veux dire,
ça
n'est qu'une impression ou un regret anticipé, je pense qu'il ne doit pas connaître. Car c'est presque entièrement inclus.
C'est ça qui est fantastique.
Presque entièrement.
Parce que je disais l'autre fois, c'est fantastique.
C'est curieux, par exemple, on regarde pas même Guénon. Ça m'a toujours frappé. Guénon a certainement dû en entendre parler, enfin, il était très au courant. Bon. Guénon a fait un compte-rendu du livre de l'abbé Berthaud. L'abbé Berthaud qui était le disciple, seul et unique disciple et tardif de Chauvet. Et Guénon a fait un compte-rendu du livre de Berthaud, qui était d'ailleurs plein de sympathie. Et se réjouissant qu'il y ait au moins un prêtre, c'était un livre qui n'était pas consacré à l'ésotérisme de la Genèse, qui était consacré au symbolisme du culte de la Vierge, et en particulier au symbolisme du rosaire. Mais il n'a jamais parlé... Or, non seulement il n'en a pas... Non seulement il y a toute raison de croire qu'il l'a connu, mais il y a une raison supplémentaire, c'est que Paul Lecourt, avec qui il était dans une... Bon, même pas une querelle, une bisbille, avec des éléments de compatriotes d'ailleurs, enfin, plaisoir. Bon. Et Paul Lecourt avait donné un compte-rendu non seulement du livre de l'abbé Berthaud, mais de l'ésotérisme de la Genèse. D'ailleurs, peu compréhensif. Mais bon, Guénon suivait très attentivement Atlantis pour pouvoir épingler Paul Lecourt chaque fois qu'il en avait l'occasion d'ailleurs. Bon. Mais il n'en a jamais parlé.
Il n'en parle pas, même dans la correspondance. Non publié,
oui.
À ma connaissance, j'en ai pas vu. Je sais que Tourniac doit en avoir quelqu'un qui va être non publié. Ouais. Peut-être qu'il en parle quelque part.
Mais est-ce que Tourniac l'a regardé un peu le livre de Chauvet? Je ne suis pas sûr.
Je ne suis pas sûr. Hein.
Il connaît sûrement de nom.
Quand je vais le rencontrer
devant lui.
J'étais en correspondance avec lui l'autre jour.
Demande-lui. Ah oui. Non, il le connaît sûrement de nom.
Mais apparemment, lui-même n'a jamais fait référence
à aucun de ses livres. Jamais. Non. Ah, mais c'est un livre qui n'a eu vraiment aucun écho.
C'est fou.
La connaissance de l'homme.
Oui.
Je suis allé assister à une conférence, je ne sais pas qu'il s'appelle Barrio Cher.
J'ai vu, je ne connais pas.
Il a parlé de la Kabbale.
Oui.
Et qui est de façon évidente Jean-Louis. Et à la fin, il a quand
même... Excuse-moi, je sais que ce n'est pas son nom. Hein. Je me permets de vous dire que c'est un pseudonyme. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas, mais j'ai vu son nom. Et bon, je connais bien l'homme et la connaissance et les organisateurs, surtout après. Un jour, comme ça, en m'en parlant, il m'a dit c'est un pseudonyme.
Je l'ai pensé.
Donc je ne sais pas si lui-même est de religion.
En tout cas, il n'avait pas de référence chrétienne du tout dans sa conférence. Et à la fin. Il a cité quand même Chauvet comme source. En disant que c'était un homme qui avait fait des études remarquables. Il n'y avait qu'une chose qu'on pouvait regretter,
oui.
C'est qu'il était quand même trop teinté de christianisme. Mais il a rendu hommage à Chauvet en disant que c'est un homme remarquable.
Ça ne me surprend pas tellement. Je crois que c'est. Actuellement, moi, j'entends de temps en temps des gens qui me disent le pape est très bien, c'est dommage qu'il parle tellement de Dieu et de morale. Enfin, c'est à quoi je ne trouve rien à dire, sauf que c'est son métier. Enfin, c'est ça. Pas,
il est beau.
Voilà, il est beau, mais pourquoi il parle tellement de dogmes? Pourquoi il parle tellement de morale? Même j'ai entendu lui dire pourquoi il parle de Dieu tellement. Ça me paraît assez normal que, grâce à Dieu, le pape en parle. Mais, ça, effectivement, je trouve ça très étonnant parce que, le point de vue de Chauvet et toute sa perspective, et, enfin, ça, non seulement il a été chrétien, il était catholique, pratiquant, il est très fervent, mais dans ses écrits, il l'a toujours dit, et je crois qu'en dehors du manque de salut, enfin peut-être l'une des raisons pour lesquelles il s'est il s'est peu à peu détaché des milieux occultistes, c'est parce que l'initiation a été mise à l'index à un moment, et puis parce qu'il y avait un côté un peu anticlérical, pas méchant. Mais il faut se replacer à l'époque et je pense que c'est une des raisons. Mais alors, lui reprocher, évidemment, je suis content d'apprendre qu'il y a quelqu'un qui le connaissait et qui l'a cité, mais lui reprocher d'être teinté de christianisme, il n'est pas teinté de christianisme, il est chrétien et il donne une interprétation de quelqu'un qui considère que la Bible est un tout, qu'il y a l'Ancien et le Nouveau Testament, et que l'Ancien prépare le Nouveau, et que le Nouveau éclaire rétroactivement l'Ancien, etc. Enfin, ça, c'est...
Et d'ailleurs, j'ai demandé à ce monsieur Barbiochère quelles étaient ses sources, ses origines,
oui.
Sur le plan philosophique.
Oui.
Il est resté absolument muet, il n'a pas voulu répondre.
Ah bon?
Il ne voulait pas répondre. Alors, je me demandais si effectivement c'est pas un surnom.
Ah oui, ça, je sais que c'est pas un surnom.
Et puis alors, mais... il y a notre auteur qui est Annie de Frisnel.
Oui, oui.
Qui me semble influencé par Chauvet. Mais qui, oui, ne le cite nulle part.
Oui, alors ça, je ne sais pas.
Comment? Par Non. Elle ne le cite jamais, et j'ai l'impression qu'il y a quand même une influence.
Oui. Ah oui, ça sûrement. Elle est en tout cas très influencée par la Kabbale, et en particulier ce qu'on appelle la Kabbale chrétienne. Hein. Encore que je fasse beaucoup de réserves sur l'expression. Mais
il y a quand même un mélange avec les
constitutions. Oui, c'est vrai. Il faudrait lui demander. Oui, ça c'est vrai. Mais autrement, c'est vraiment très surprenant de voir comme ce livre a eu peu d'écho. Enfin, non, on espère avec la famille, enfin surtout le petit-fils de Chauvet, on envisage de le faire rééditer. Parce que je crois qu'actuellement, il y aurait tout de même davantage de chances qu'il touche les personnes que ça peut intéresser.